Radio Kapi.
Le journal Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, l'ONG Fédération Congolaise des Droits de l'Homme et des Développements dénonce la dégradation des conditions de détention à la prison centrale de Boma au Congo central. L'organisation s'inquiète également de son état de vétusté très avancé ainsi que de fréquentes évasions enregistrées à raison de l'effondrement de la clôture. Au moins 2000 personnes sont décédées parmi les cas confirmés de l'épidémie Ebola qui sévit en République démocratique du Congo. Selon les dernières données gouvernementales, cette progression est la plus rapide jamais enregistrée. Poursuite sans relâche du travail d'assainissement de la ville de Kinshasa par la Task Force dirigée par les responsables du service national. Et désormais, plus de 4000 bâtisseurs de ces services n'hésitent pas à punir sévèrement ceux qui salissent les espaces publics. Vous suivrez un extrait de l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mardi à ce sujet. Mesdames, Messieurs, bonjour. Dégradation des conditions de détention à la prison centrale de Boma au Congo central. L'ONG Fédération Congolaise des Droits de l'Homme et des Développements lance un cri de détresse. FCDHD dénonce cette situation qu'elle qualifie d'alarmante. D'après son coordonnateur provincial, cet établissement pénitentiaire construit en 1905 pour une capacité d'accueil de 150 détenus fait aujourd'hui face à une forte surpopulation carcérale avec plus de 300 détenus. La structure s'inquiète également de l'état de vétusté très avancé de la prison ainsi que de fréquentes évasions enregistrées en raison de l'effondrement de la clôture. Le coordonnateur provincial de la FCDHD, Gabriel Makiesse, s'exprime au micro d'Élise Kavira.
Nous relevons à l'intention de l'opinion tant nationale qu'internationale les non-effectivités des principes de séparation des catégories de détenus, notamment les enfants mineurs aux adultes, les femmes aux hommes et les prévenus aux condamnés. La situation ici évoquée expose des enfants à des violences physiques et psychologiques, les femmes aux abus sexuels et prévenus au cas de torture de la part des condamnés, quand bien même certains prévenus finissent par être reconnus innocents. Suite à un environnement malsain, le détenu reste exposé à la propagation de plusieurs maladies, entraînant fréquemment plusieurs parmi eux à la mort. Nous recommandons ce qui suit. À son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, d'organiser à l'urgence une descente dans la prison de Boma pour y palper du doigt des conditions inacceptables dans lesquelles y vivent les détenus, afin que de mesures urgentes et palliatives soient trouvées.
L'organisation dénonce également des détentions prolongées, souvent liées à la lenteur de la justice et à l'insuffisance des juges dans les tribunaux de paix du Congo central. Un nouveau chiffre dans les dossiers Ebola. Au moins 2000 personnes sont décédées parmi les cas confirmés de cette épidémie qui sévit en République démocratique du Congo. Et cette progression est la plus rapide jamais enregistrée selon les dernières données gouvernementales relayées par un responsable des Nations Unies. Le point avec Séphorin Paka.
Ce bilan provisoire fait de l'épidémie liée au virus Boudibougyo, déclarée le 15 mai dernier dans l'est de la RDC, la deuxième épidémie la plus meurtrière jamais enregistrée à ces jours. Aujourd'hui, l'épidémie d'Ebola a dépassé le 2000 décès, dont la moitié au cours de 20 derniers jours. 2000 enfants, mères et pères. Autant de tragédies individuelles. A réagi sur les réseaux sociaux X, Julien Arnès, coordonnateur principal de l'ONU pour Ebola. Alors qu'il avait fallu environ 9 semaines pour que l'épidémie atteigne le seuil de 1000 décès. Environ 3 semaines seulement ont suffi pour enregistrer 1000 décès supplémentaires. Signe à la vitesse à laquelle la crise échappe au contrôle des équipe d'intervention, selon toujours les experts de l'ONU. Notez enfin que la riposte sanitaire se poursuit dans les 5 provinces touchées, à savoir l'Ituri, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, les Haut-Uele et la Tchopo, selon le ministre congolais de la Santé. Au total, 53 zones de santé sur 140 et 246 aires de santé sont concernées.
En rapport avec la lutte contre cette épidémie, au Nord-Kivu, les collectifs féminins pour l'innovation et la stabilisation ne croisent pas les bras à Lubero. Cette structure a lancé une vaste campagne de sensibilisation communautaire dans ce territoire. Plus concrètement, ce collectif constitué en majorité des professionnels de santé appelle la population au respect strict des mesures barrières et à la vigilance face aux rumeurs et à la désinformation. Objectif, faire de chaque citoyen un acteur de la lutte contre cette épidémie. Écoutons la coordinatrice de ce collectif. Les propos de Dr Jocelyne Zinzé ont été recueillis par Marc Marofimbo.
Nous sommes en train de sensibiliser les différentes couches de notre communauté concernant la maladie à virus Ebola. Notre message est que la maladie à virus Ebola est une réalité et que nos zones de santé dans notre territoire sont touchées. La zone de santé de Lubero, la zone de santé de Musienene, la zone de santé de Masereka. Or, nous avons des mouvements de population dans ces différentes zones. Ainsi, nous sommes en train de demander à notre population, à nos communautés, d'appliquer les mesures barrières, le lavage des mains avec du savon, l'usage des gels et aussi gardons un enterrement digne et sécurisé. Nous devons dénoncer tous les cas contacts et les cas suspects ou des cas maladies qui restent dans nos communautés. Nous sommes en train d'appeler la communauté, la population à se faire soigner, de se faire examiner dans des structures sanitaires que de se soigner à domicile. Autre chose, nous sommes en train de lutter contre la manipulation et des intoxes, surtout chez les jeunes où il y a souvent des résistances.
Le docteur Jocelyne Zinzé recommande également aux autorités d'installer des dispositifs de lavage des mains à toutes les barrières et aux différents points de contrôle entre Boutembo et Lubero. Le problème de santé est également au cœur des préoccupations à Miti dans le sud Kivu. Plusieurs enfants de ces groupements sont exposés aux piqûres de tiques en cette période de vacances. Ces lésions attribuées à ces acariens parasites sont souvent mises en cause dans l'apparition d'abcès, des cas de tétanos et de fièvres hémorragiques. Conscient des dangers que représentent ces parasites pour la santé des communautés, les docteurs vétérinaires Arusima Baogwer Tarsis, chercheurs spécialisés dans les maladies zoonotiques qui se transmettent des animaux à l'homme, invitent les parents de villages concernés à procéder à la désinfection des lieux où sont gardés des animaux. Il a été joint par Roneline Tibonera Idiamine.
Vous devez vérifier valablement si les habits que vous portez ne sont pas, ne vous quittez les lieux du travail avec des tiques. Et aussi, il faut du tout aussi faire le déboisement. Mais ce qui est vraiment plus important, c'est d'éviter les contacts des animaux qui ont des tiques avec les humains. Et aussi, il faut bien désinfecter. Rassurez-vous que vous avez désinfecté, vous avez fait le déparasitage du lieu où vous étiez. Donc, si vous élevez les bovins, les ovins, il faut faire au besoin par deux à trois fois des bêtes des animaux, enfin faire les bêtes des animaux deux à trois fois. Il faut aussi notamment tout à fait éviter lorsque les enfants font partent dans des brousses, ils essayent avant de quitter les brousses, est-ce qu'ils sont bien habillés, pantalons, godio que nous appelons les bottes, est-ce qu'ils ont des gants, en fait qu'ils évitent vraiment directement les piqûres des tiques avec des contacts avec le tigre et les animaux.
Notez que nous avons essayé de contacter les médecins sur place, mais sans succès. Place à présent à cette colère de près de 140 journaliers de la SNEL à Bandundouville. Voilà près de 20 ans depuis qu'ils attendent la concrétisation de la promesse d'un engagement à la Société nationale d'électricité. Une promesse pourtant faite par la direction générale de l'entreprise. Après plusieurs années de service sous le statut des journaliers, ils expriment aujourd'hui leur ras-le-bol et souhaitent désormais une évolution de leur situation professionnelle. Un reportage de Jean-Claude Tangamou de la radio-télévision Bandundu Développement, rendu par Benjamin Moudoumbi Malabar.
Il travaille depuis plusieurs années au sein de la Société nationale d'électricité, mais continue d'exercer sous le statut des journaliers. Dans une déclaration, ces travailleurs font part de leurs préoccupations face à la durée de cette situation professionnelle. Ils affirment que lors de son passage à Bandundu, le directeur général de la SNEL leur aurait promis un engagement au sein de l'entreprise. Une promesse non tenue. Pour eux, la régularisation de leur situation constituerait une reconnaissance des années de service et des efforts consentis au fonctionnement de la SNEL à Bandundu. vous, les représentants des journaliers Christian Mayeli.
Nous, journaliers de la Société Nationale d'Électricité, SNEL SA, direction régionale de Bandundu, sollicitons l'implication personnelle du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, ainsi que le directeur général de la SNEL, ingénieur Teddy Luamba Mouba, d'instruire le directeur des ressources humaines, monsieur Katina Kambale, à exécuter sa promesse de régularisation de notre situation administrative dans le meilleur délai. Nous attirons particulièrement l'attention de la hiérarchie sur une proposition majeure qui ressort de notre situation.
Pendant ce temps, la direction régionale de la SNEL du Grand Bandundu ont dit qu'on n'est pas souhaité s'exprimer à ce stade sur cette question.
Tout à fait autre chose à présent, des véhicules sans plaque d'immatriculation circulent en Ituri. D'autres utilisent des plaques temporaires IT pendant plusieurs années, alors que celles-ci ne sont valables que pour une courte période. Certains roulent également avec des plaques STA réservées aux services techniques et administratifs, parfois pour des véhicules privés. Cette situation entraîne un important manque à gagner pour les recettes de l'État. Comment expliquer ce phénomène ? Alida Katueka s'est penchée sur la question. Voici son reportage.
Dans les rues de Bounia et de ses environs, il est fréquent de croiser des véhicules sans plaque officielle ou portant des plaques personnalisées. Certains affichent les initiales de leur propriétaire, d'autres de noms d'entreprise ou encore des références religieuses. Pourquoi ces automobilistes roulent-ils avec des plaques non conformes?
Apparemment, il y a un sérieux problème au niveau de la DGI. Concernant les assujettis, ça ne pose pas assez de problèmes. Mais si la DGI décante la situation, les assujettis peuvent s'acquitter librement.
Selon la police de circulation routière PCR, pointant du doigt pour sa présumée passivité, plusieurs propriétaires de véhicules ont accompli les formalités administratives et attendent la disponibilité de plaques officielles. Par ailleurs, la PCR indique que pour des opérations de contrôle et de bouclage, il lui faut au préalable une demande de la DGI. À la Direction Générale des Impôts DGI, les plaques d'immatriculation sont désormais commandées en ligne à Kinshasa, ce qui rallonge les délais de livraison. En attendant leur acheminement en province, des jetons provisoires sont délivrés aux propriétaires et ont déjà introduit leur demande. Sauf que certains automobilistes affirment attendre les précieux sésames depuis des années. Mais au-delà de ces difficultés administratives, cette situation représente un manque à gagner pour les finances publiques. Une plaque d'immatriculation officielle coûte une centaine de dollars américains. Alida Katueka, Radio Kapibunia.
Retour à Kinshasa pour vous parler d'un sujet qui touche l'ensemble des Congolais. C'est la question si les lieux d'inhumation qui soulèvent une grande préoccupation. Non seulement ces lieux de demeure des êtres que l'on a connus semblent parfois être oubliés, jonchés d'herbes pour certains, mais surtout les routes qui y mènent sont impraticables. S'agit-il d'un mépris de ces lieux ou simplement d'un oubli? Le point avec Jean-Marie Kanaimba.
Les constats faits sur la route qui mène à la nécropole 2, communément appelée Nécropole Académie, ce lieu d'inhumation est marqué par l'absence de route, surtout sur ce tronçon qui va de l'arrêt Moussolo jusqu'à Mekao dans la commune de Maluku. Ce passage est un véritable parcours du combattant. Seuls deux motos et quelques véhicules les fréquentent. Travailleurs et riverains s'inquiètent pour son état d'enclavement.
Cette route part de l'entrée jusqu'à Mekao, mais elle n'est pas entretenue. D'ailleurs, il y a une académie militaire qui est non loin et qui sert même des références. Que l'État nous trouve une solution. La nécropole est un endroit où on garde nos êtres chers. Comment leurs familles peuvent-elles venir leur rendre visite s'il n'y a pas de route?
Papa Mary, chef de la localité, plaide pour la construction de la route, l'eau et l'électricité. Il estime que ces lieux méritent les soins appropriés pour son accessibilité.
Si tu n'as pas de cœur, tu ne peux pas venir habiter ici. Ils nous ont promis depuis longtemps qu'ils viendront ouvrir cette route, mais jusque-là, non. Ce cimetière est un lieu qui fait honneur aux morts, mais il n'y a pas de route. Nous souffrons ici. Nous avons besoin de route, du courant et de l'eau.
Lieu où reposent éternellement des êtres chers, la nécropole 2 a tant bénéficié de l'attention des autorités compétentes.
Actualité internationale.
Au Nigeria, 10 officiers de police, 2 civils et 17 bandits présumés ont été tués hier mardi matin lors d'affrontements entre les forces de sécurité et un important groupe d'hommes armés à la frontière entre l'État de Zamfara et celui de Kebbi. Des renforts policiers et militaires ont été déployés il y a quelques jours dans le nord-ouest du Nigeria pour tenter d'entraver les activités des bandits. Et puis la normalisation des relations s'accélère entre l'Algérie et le Mali. Le Premier ministre Sifi Grieb a invité dimanche dernier son homologue malien, le général de division Abdoulaye Maïga, a effectué une visite en Algérie lors d'un entretien téléphonique. Selon le communiqué algérien, les deux dirigeants ont exprimé leur volonté de dynamiser les relations bilatérales et de revitaliser la coopération dans divers domaines.
L'invité.
Débuté depuis juillet dernier, le travail d'assainissement de la ville de Kinshasa par la task force d'assainissement dirigée par le responsable du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, s'est poursuit sans relâche. Chaque jour, depuis deux mois, plus de 4000 agents de ce service balayent et curent plusieurs espaces publics de la capitale. Et désormais, ils n'hésitent pas de sévèrement punir ceux qui se hasardent à salir les espaces publics. L'émission Dialogue entre Congolais d'hier mardi a évoqué ces sujets. Écoutons quelques extraits avec les intervenants au micro de Dona Madimba.
Panon Babadi Mwamba, environnementaliste et enseignant à l'université de Kinshasa, nous sommes à l'étape où nous allons conclure cette émission. Justement, qu'est-ce qu'il faut, selon vous, à l'heure où on est, et pour ce qu'on voit de ce que le travail de la task force, qu'est-ce qu'il faut exactement qu'il fasse? Citez-nous deux ou trois éléments importants pour que on entre dans la solution intégrée, qui comprend bien aussi bien la gestion des déchets, mais aussi ce côté humain qui pourrait transformer les mentalités.
Voilà, quelques deux, trois tâches. Encore, je crois bien qu'ils ont déjà tout prévu dans un plan où je n'ai pas encore vu.
Nous l'espérons, mais, hein, pour le moment, nous ne voyons pas encore.
Je crois à cela. Pour moi, il faudrait que l'on puisse avoir vraiment une forme réelle de gestion. Cela revient à dire, vous balayez et vous partez. Vous ne dites pas à la personne qui est restée où mettre ces déchets-là. C'est comme ça que le lendemain matin, nous nous retrouvons encore avec ce déchet. Le problème, c'est qu'il faut qu'on réaménage tout. Le problème, là, c'est que je parlerai encore de l'éducation pour dire que, voilà, monsieur, que tu es à Limété, votre endroit pour que vous posiez, vous déposiez vos déchets, c'est à tel endroit. En ce moment-là, moi, je m'organise à ce que, avec celui qui vient prendre les déchets chez moi à la maison, de telle manière qu'il puisse les déposer à tel endroit. Ça serait plus jeter en cours de route, ça serait plus pour nous une occasion pour le quinoa, pour venir dire, hein, pour le quinoa, de voir la pluie comme une solution pour jeter ses déchets, parce que des fois, c'est comme ça.
Joseph Dunia Rouyenzi, avocat ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Nord Kivu et membre de la société civile congolaise dans l'ONG Promotion de la démocratie et protection des droits de l'homme PDH en sigle. Vous êtes un homme de loi. Quel est, brièvement, votre regard sur les sanctions corporelles qui sont déjà un peu utilisées? Et puis, est-ce que il est possible, selon vous, de mettre en place une politique uniforme dans tout le pays, sur le modèle, par exemple, de Goma ou d'autres endroits du monde qui ont efficacement marché?
Oui, merci, monsieur le journaliste. Je vois ce que je voulais proposer, l'uniformisation de cette task force à toutes les autres provinces. Mais je voulais aussi proposer qu'il y ait une loi qui porte création de cette task force, la création des arrêts bis, des parkings privés ou publics, comme à Goma, il y a des parkings où vous entrez, vous payez, et ça paye beaucoup, ça donne beaucoup de bénéfices. Il faut aussi qu'il y ait une loi de protection de l'environnement. Je peux aussi proposer, par exemple, sur les carburants, qu'il y ait une taxe sur l'assainissement, ce qui va donner l'argent à payer aux bâtisseurs qui vont se charger de cette tâche. Mais je suis contre l'application des sanctions corporelles. C'est pour ça aussi qu'il faut qu'il y ait une éducation, une sensibilisation, un éveil de conscience. Parce que les droits à l'environnement, ça concerne tous. Vous voyez, l'intervenant a voulu expliquer qu'il n'y a pas de zone verte à Kinshasa, il n'y a pas de site de traitement. L'idée est très belle à celle.
Merci Joseph Dunia.
Mais sans cela, je crois qu'on peut perdre le temps.
On peut perdre le temps. Joseph Dunia, merci. Patrick Moussoko Mbouyi, président de la Coalition nationale des associations des consommateurs de la RDC. Votre dernier mot, peut-être un appel à la population qui peut aider à tenir Kinshasa plus propre qu'avant.
Merci. Les derniers mots, je dirais, il y a d'abord, il faut une politique d'aménagement du territoire. Deuxièmement, il faut des normes, compte tenu de la croissance démographique de la population. Troisièmement, il faut la conscientisation de la population.
C'était un extrait de l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mardi, dont le thème était axé sur la poursuite sans relâche du travail d'assainissement de la ville de Kinshasa, des travaux réalisés par les bâtisseurs de la task force dirigée par les responsables du service national. Les intervenants de cette émission étaient au micro de Dona Madimba. C'est la fin de ce journal qui a été préparé par Lévin Mwinga et mis en onde par Pierre Diassinois. À vous, infiniment merci de l'avoir écouté.